bienvenue dans Le Pitch par Shareable, l'émission qui vous plonge dans l'univers passionnant des startups et des levées de fonds. Je suis Mégane Seguin, cofondatrice de Shareable, le nouveau hub d'échange entre les entreprises et les investisseurs. Ici, nous donnons la parole aux entrepreneurs les plus inspirants et innovants pour qu'ils vous présentent leurs projets, leurs visions et leurs ambitions. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également à la rencontre des investisseurs et des fonds qui les accompagnent pour comprendre les enjeux et les défis de l'écosystème startup. Alors, êtes-vous prêts à écouter les histoires captivantes de ceux qui font bouger les lignes de l'entrepreneuriat? C'est parti pour le pitch par Shareable. Bienvenue dans le Pitch par Shareable, l'émission qui vous plonge dans le monde des startups et des levées de fonds. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Basso et Florence Richardson, fondatrices de WinEquity. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Mégane.
Bonjour Mégane.
Dans cet épisode table ronde, je vous propose d'échanger autour de trois thématiques. L'entrepreneuriat au féminin, l'écosystème startup et les nouvelles tendances de la rentrée, et enfin, les clés pour réussir en 2023. Est-ce que vous êtes prêtes?
On y va.
Super. Donc, pour démarrer, pour commencer cette table ronde, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous partager votre parcours et est-ce que vous avez fait depuis que vous avez rejoint la vie active?
Bon, alors, je démarre. Donc, Florence Richardson. Enchantée, Mégane, et merci. Merci d'organiser ce podcast. Donc, moi, j'ai un parcours dans le domaine, pour commencer, financier, dans le domaine bancaire, et puis entrepreneuriat, puisque j'ai cofondé, en fait, il y a maintenant début des années 2000, une société dans le domaine du conseil en organisation commerciale, externalisation de force de vente. Et puis, je suis tombée dans l'investissement il y a plus d'une quinzaine d'années. Et j'ai commencé à investir en tant que business angel, d'abord de façon pas très structurée et plutôt love money. Et puis, j'ai souhaité organiser un petit peu ça. Et donc, j'ai fait pas mal d'investissements en tant que business angel, notamment dans le réseau Femmes Business Angel, dont j'ai été longtemps présidente, pour aller encore plus loin dans la structuration de la démarche et cofonder donc avec Cécile WinEquity il y a un petit peu plus de 2 ans.
Merci Mégane pour cette invitation. Alors quelques mots sur mon parcours. Donc moi j'ai un parcours de direction d'entreprise. En fait j'ai commencé ma carrière dans des entreprises classiques. J'ai passé 20 ans dans une entreprise très internationale à faire de la promotion de différentes filières dans des salons professionnels. Et ensuite j'ai pris la direction d'une entreprise qui était spécialisée dans la promotion agricole, agroalimentaire et viticole pour emmener des filières et des entreprises à l'international. Et puis j'ai commencé, à cette période-là, j'ai commencé à faire quelques investissements et puis maintenant, depuis une dizaine d'années, j'ai en effet un peu plus structuré cette démarche d'investissement. D'abord, comme Florence, en étant business angel, en investissant en direct dans des startups. Plus récemment, en ayant aussi investi dans des fonds d'entrepreneurs, participé au comité d'investissement de ces fonds d'entrepreneurs, et puis donc plus récemment, la création de WinEquity. Donc, au total, j'ai investi dans une trentaine de startups en direct et une cinquantaine si je prends les participations au travers des fonds. Et avec une volonté aussi très importante d'accompagner les startups dans lesquelles j'investis. Et donc d'investir dans des startups qui ont envie d'être accompagnées.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus, de manière un peu plus détaillée, quelles ont été les motivations pour axer votre thèse d'investissement autour de la mixité et autour de l'entrepreneuriat féminin?
Alors, je peux peut-être démarrer. En fait, WinEquity, il y a un peu plus de 2 ans, donc effectivement avec Cécile, on avait pas mal investi indépendamment et ensemble d'ailleurs sur un certain nombre de startups, mais toujours en direct, et on a ressenti en fait le besoin et surtout l'envie d'aller plus loin dans notre démarche et la structuration de notre démarche, et d'apporter déjà des fonds plus importants aux startups que nous souhaitons accompagner, et puis de resserrer aussi un peu notre thèse d'investissement, parce que moi j'ai fait aussi une quarantaine d'investissements, Et je dirais que la notion de genre n'est pas un critère. Par contre, la notion de mixité dans l'actionnariat et dans l'entrepreneuriat est devenue de plus en plus prégnante. Et sur WeMeQuity, on s'est dit, finalement, on se rend compte que la mixité, c'est un vrai facteur de performance. Et on a envie d'investir sur cette thèse de la mixité et donc d'accompagner des équipes mixtes ou féminines et qui qui ont cette volonté d'entreprendre. Donc on a créé WeMeQuity pour soutenir la mixité entrepreneuriale et aussi la diversité actionnariale puisque finalement WeMeQuity c'est un fonds d'entrepreneurs avec une centaine d'investisseurs, 2/3 de femmes, ce qui est très très atypique et qui a cette thèse d'investissement engagée. On était les premières, à l'époque il y a eu d'autres initiatives qui ont suivi, mais on était les premières à créer une structure d'investissement dédiée à la mixité entrepreneuriale.
Et peut-être pour donner un complément de la façon dont on fonctionne chez WeMeQuity, donc comme l'a dit Florence, nous notre volonté, et quand on est investisseur, c'est sûr que le critère de performance est un des critères qu'on regarde, même si la dimension de l'aventure humaine est aussi très importante. Donc cette mixité qui pour nous est un facteur additionnel de performance, on l'a mis au cœur de notre réflexion. Aujourd'hui, on accompagne des startups qui font des levées entre 800 000 et 3 millions d'euros. On est toujours, on souhaite être en co-investissement avec d'autres fonds, donc on n'est jamais lead nous sur les dossiers. On est en co-investissement avec des fonds qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui considèrent que la mixité est aussi un facteur de performance et qui recherchent des fonds co-investisseurs dans lesquels il y a aussi des femmes dans l'actionnariat. Donc, on apporte une féminisation de la gouvernance avec une volonté d'être présente dans les comités stratégiques et d'accompagner les entreprises. Et on met généralement des tickets entre 150 à 200 000 euros au premier tour et on se garde une capacité d'accompagnement des entreprises que l'on accompagne. On a fait 6 investissements à ce stade. On s'est lancé il y a 2 ans. Et on continue à regarder des dossiers. On regarde tout type de secteur, uniquement des entreprises françaises, à la fois en B2B ou en B2C, et on a aujourd'hui investi dans des secteurs qui sont très divers.
Enfin, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu les projets dans lesquels vous avez investi et peut-être nous dire pourquoi justement vous les avez choisis ?
Oui, bien sûr. On va peut-être commencer par notre premier investissement, donc qui était dans le domaine de la PropTech. Donc c'est Citoy, c'est une plateforme en fait qui permet aux entreprises d'améliorer, aux entreprises, aux gestionnaires de parcs immobiliers, finalement, de simuler la durabilité des bâtiments et d'améliorer l'efficacité énergétique de ces bâtiments avec, finalement, dans un marché qui est aujourd'hui de plus en plus contraint par la réglementation, l'augmentation des taux, évidemment, des contraintes énergétiques et de performance climatique. Et donc, c'est vraiment un projet qui, aujourd'hui, est au cœur des préoccupations en fait des grands gestionnaires de parcs immobiliers. Donc ça, c'était notre premier investissement. Cécile, tu peux peut-être donner deux.
Oui, alors peut-être pas rentrer dans le détail de tous nos investissements, mais on a fait un investissement dans le secteur de la santé avec une société qui s'appelle Illshape, qui est lyonnaise, qui est dans la phase encore de recherche. C'est une prothèse pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc, c'est une prothèse avec des matériaux biosourcés qui se dissout après la pose de la reconstruction mammaire une fois l'opération faite. Ensuite, on a investi dans une société dans le domaine du quantique, où on est en co-investissement avec Quantonation, une société qui s'appelle Vericloud. On a investi dans une société qui s'appelle Outmine, qui est un outil de search pour les entreprises, hyper utile, savoir retrouver toutes ces informations dans les nombreuses applications que l'on a. On a investi dans Le Rouge Français, qui est une société qui fabrique des cosmétiques à base de plantes tinctorielles, naturelles, véganes, positionnées plutôt premium et qui se lance en France et à l'international. Et puis le dernier investissement, c'est un investissement que nous allons bientôt annoncer, mais on peut le donner. Ben, merci Yanis. Et c'est une société qui accompagne en fait les services généraux des entreprises pour optimiser la gestion des bâtiments, que ce soit en termes de nettoyage, d'électricité, de chauffage, etc.
Deuxième question qui est intéressante et qu'on a déjà survolée lorsqu'on a parlé de la philosophie d'investissement de WinEquity, mais quelle est selon vous la valeur ajoutée d'une approche féminisée dans l'investissement et dans l'accompagnement des sociétés cibles ?
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même sur des secteurs d'activité hyper diversifiés, du B2B, du B2C, on va du quantique au cosmétique, et finalement, le cœur de tout ça, c'est toujours des équipes fondatrices portées par des fondateurs, des fondatrices ou des équipes mixtes, et c'est vraiment pour nous la qualité de l'équipe, ça reste le driver numéro un pour investir.
Ouais, c'est ultra déterminant. Bien évidemment, enfin, je crois comme tous les fonds ou les investisseurs qui rentrent en seed ou en pré-seed, cette notion d'équipe et d'exécution, elle est hyper importante. Donc, on passe beaucoup de temps, en effet, avec les entrepreneurs à challenger à la fois leur capacité de croissance, ce qu'ils ont réalisé, leur charisme, le feeling entre les fondateurs et la façon dont on arrive à appréhender l'idée qu'on se fait de leur capacité à développer ce qu'ils nous présentent. Et pour ce faire, on le fait, nous, avec un comité d'investissement. Donc, on est une dizaine dans notre comité d'investissement et on a une façon de fonctionner qui est assez à la fois collégiale dans le challenge et très pointu dans la décision, puisque pour investir, il faut que nous ayons l'unanimité moins une voix dans notre comité d'investissement. Donc, nous challengeons pas mal les dossiers. Voilà, donc c'est vrai que toute la période du Covid, là où il a fallu faire des investissements, où on voyait les gens en Zoom, c'était un peu complexe, parce que pour nous, c'est important de rencontrer les équipes, d'aller les voir dans leur cadre, de rencontrer l'ensemble des équipes, de voir les interactions avec leurs collaborateurs. Et donc, on attache une grande importance à ce temps que l'on doit consacrer au moment de la décision, en fait. Et c'est aussi tester la relation qu'on a avec eux, parce que c'est une aventure. Il faut qu'il y ait une envie des deux côtés d'être ensemble, parce qu'il faut qu'il y ait une envie d'accompagnement des deux côtés. Il faut qu'il y ait une espèce de début de confiance qui se crée, et il faut qu'on ait une capacité à bien se parler, en fait. Et toute cette phase-là, c'est la phase de... C'est même si c'est une phase de séduction, c'est une phase où on sent bien si ça va bien fonctionner ou pas.
Un des points clés, effectivement, c'est que après l'investissement, en fait, c'est au moment de l'investissement que l'histoire démarre, en fait, et que l'aventure démarre. Et après l'investissement, on est systématiquement présent, représenté au comité stratégique. Pour nous, c'est vraiment un élément fondamental. Et notre volonté, c'est d'apporter une réelle valeur ajoutée aux sociétés qu'on finance et les membres qui sont présents au comité stratégique, donc qui sont les membres de notre comité d'investissement, ont toutes une expérience entrepreneuriale, des expertises et des compétences qu'elles apportent et qui sont choisies aussi en fonction du secteur d'activité de la société, puis des besoins qu'on peut détecter pendant la phase amont, en amont de l'investissement. Pour nous, c'est vraiment important d'être très proche de nos entrepreneurs et de continuer à être proche. Parce qu'on sait quand même que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, cette aventure.
Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, y a-t-il une différence entre être un investisseur en 2023 ou une investisseuse ?
Alors, on va peut-être revenir très rapidement sur les chiffres, hein, qui sont quand même, dont on a beaucoup, beaucoup parlé, mais qui restent quand même des éléments assez structurants et fondamentaux au démarrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, on mesure depuis quelques années, notamment grâce à Sistal, les levées de fonds qui sont réalisées par les femmes entrepreneurs. Et on voit bien que aujourd'hui, elles ont une partie extrêmement infime du gâteau de financement. Et en plus, dans un contexte de financement qui se resserre, les choses ne s'arrangent pas. Donc, il y a clairement des difficultés qui sont identifiées pour lever des fonds quand on est une femme entrepreneur. Après, moi, je pense que c'est pas la bonne façon de regarder les sujets, parce qu'on va trouver toujours des tas d'explications de pourquoi effectivement les femmes lèvent moins et elles ont été identifiées. Un des sujets aussi, c'est de regarder comment on peut changer ça. Et une des façons de changer ça, c'est de mettre aussi plus de diversité, plus de mixité dans les investisseurs, parce que finalement, Nous, on s'en rend compte, hein, les femmes qui viennent lever des fonds auprès de nous, elles lèvent plus facilement quand elles ont un public d'investisseurs plus diversifié et plus mixte. Donc, ça a été aussi une des raisons de la jeunesse de Winequity, c'est de dire si on arrive à apporter plus de mixité d'actionnariat, on favorisera aussi plus de mixité dans l'entrepreneuriat. Donc oui, premier sujet quand on est une femme entrepreneur, c'est effectivement d'arriver à lever des fonds et toutes ces initiatives qui émergent et puis le fait de mettre en avant ces difficultés à lever des fonds et ces déséquilibres vont dans le bon sens.
Et ça fait partie de nos ambitions chez Winequity, hein, c'est de continuer nous à maintenir cette mixité chez nos investisseurs, hein, ceux qui nous font confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise, de femmes dans l'économie qui ont envie d'investir dans les startups. On le sent, on en a un certain nombre qui nous ont rejoints et d'autres qui nous contactent aujourd'hui et qui ont envie d'investir dans l'économie réelle et qui trouvent au travers de fonds comme le nôtre des réponses à leurs souhaits d'investissement, pas forcément, ils n'ont pas forcément tout le temps à consacrer à l'étude des dossiers, donc voilà, font confiance à des fonds comme le nôtre pour mettre une partie de leur épargne ou de leur argent pour investir dans des startups.
Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de passer à la première partie de notre table ronde. Donc, je voulais qu'on discute un petit peu ensemble de l'entrepreneuriat au féminin, même si c'est un sujet qu'on a déjà bien abordé. Première question pour vous, quels sont les défis auxquels les femmes entrepreneurs font le plus face et comment pensez-vous que ces difficultés ou ces défis supplémentaires puissent être surmontés?
Un des points au départ, hein, quand on a lancé Winequity, c'est qu'on nous a dit « vous n'aurez pas le deal flow ». Ça a quand même été le sujet. Mais lancer un fonds, une structure d'investissement pour financer des femmes entrepreneurs, quelque part, ça n'a pas de sens dans la mesure où vous n'aurez pas le deal flow. Bon, ce n'est pas du tout vrai. En fait, on a un super deal flow, un deal flow hyper qualitatif. Donc, en fait, l'entrepreneuriat féminin, il est là, il existe. Et il existe beaucoup sous forme d'équipes mixtes, en fait. On voit beaucoup d'équipes exclusivement masculines, pas beaucoup d'équipes exclusivement féminines. Et finalement, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on parle souvent d'entreprise avec des équipes mixtes de fondateurs. Et en fait, nous, on trouve ça très bien parce qu'on est convaincus que c'est la meilleure façon d'aborder la performance, c'est par la mixité. Donc le deal flow, il est là. On a vu beaucoup, beaucoup de projets et on en a financé un certain nombre qui sont en étant convaincus de leur pertinence. Je pense qu'il faut arrêter de comparer aussi toujours les hommes, les femmes, etc. On est tous aujourd'hui. C'est quelque part, c'est un sujet qui peut-être plus tellement d'actualité. La réalité, c'est comment être le plus performant possible et en alliant justement ces compétences diversifiées, mixitées, mais aussi d'origine, d'expérience, etc. C'est comme ça qu'on arrivera à faire les plus beaux investissements et les meilleures entreprises.
Et d'ailleurs, dans les statistiques qui sont sorties sur les levées de fonds, la mixité est un facteur qui favorise les levées. Un homme qui s'associe avec une femme, il a 1,6 fois plus de chances de lever, et une femme qui s'associe avec un homme, on monte jusqu'à 3,4. C'est les statistiques de Sista. Donc, cette mixité, c'est aussi une façon d'attirer plus d'investisseurs. Et après, pour répondre à votre question, Megan, je pense que les femmes comme les hommes rencontrent pas mal de difficultés quand ils lancent leur start-up. Et aujourd'hui, on est dans une phase quand même très particulière, hein, où on sait qu'il y a une baisse des investissements, il y a des challenges qui sont beaucoup plus importants, les start-up sont beaucoup plus en compétition les unes avec les autres vis-à-vis des investisseurs, et qu'il faut être capable de faire la démonstration de sa capacité de réussir et que rien n'est laissé... Rien n'est laissé au hasard. Donc, ça, c'est au moment d'élever. Et puis après, il y a la difficulté des lancements des startups avec un des enjeux qu'on voit très fortement en ce moment, qui est l'enjeu des talents, hein, de savoir recruter les bonnes compétences et particulièrement les compétences commerciales. Parce que quand les temps sont durs pour lever des fonds, le meilleur les meilleures des ressources, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires et c'est donc de vendre ces solutions et donc d'avoir des bons vendeurs, des bons commerciaux, des bonnes équipes commerciales. Et ça, c'est vraiment un enjeu que l'on ressent. Et c'est là où on voit notre capacité aussi d'accompagnement des boîtes, c'est de pouvoir les aider à recruter, à challenger, à structurer, à processer, à manager, à encourager, même dans les moments un peu difficiles.
Est-ce que depuis que vous réalisez des investissements, puisque vous en avez réalisé un certain nombre quand même, vous avez pu mettre en place une espèce de méthode d'accompagnement, une stratégie qui vous permette de maximiser les chances de succès de vos participations ?
Mais on a tous autour de la table des expériences diverses et variées dans des entreprises de plus ou moins grande taille et de plus ou moins, je dirais, qui ont eu des expériences différentes ou dans des secteurs différents. Donc, en fonction des sujets, on peut actionner telle ou telle personne. Et puis après, de façon un peu globale, on a chacune d'entre nous à la fois cette expérience que l'on a et puis le fait que ça fait une dizaine d'années qu'on fait de l'accompagnement de start-up, qu'on a accompagné une trentaine d'entreprises chacune avec Florence et qu'on a vu beaucoup de situations différentes. Et donc, on essaye de rester à la fois pragmatique, de trouver des solutions qui sont aussi adaptées aux gens qu'on a en face de nous, hein, parce qu'on ne peut pas plaquer des solutions toutes faites. On entend souvent dire que voilà, il faut faire comme ci ou faire comme ça. Bon, oui, sur le papier. Après, la théorie, c'est les gens que vous avez en face de vous et leur capacité à faire. Hein.
Donc, autre point un petit peu plus projectif qui est intéressant également de vous soumettre, c'est la vision que vous avez à terme sur l'évolution de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous avez une vision qui est plutôt positive, donc plutôt optimiste ou plutôt pessimiste ? Et quel conseil donneriez-vous à une femme aujourd'hui pour justement permettre une meilleure représentation des femmes dans l'entrepreneuriat ?
Pour revenir sur la question initiale, Mégane, qui est c'est quoi les spécificités de l'entrepreneuriat féminin ? On a parlé du financement. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui quelque chose qui est vraiment important et qui est important à la fois côté investisseur et côté entrepreneur, c'est toute cette dimension d'impact et de sens. Et par contre, ce qui ressort aujourd'hui, et une étude là aussi qui commence à le démontrer, c'est que les femmes qui entreprennent sont plus portées vers des projets impact et elles intègrent finalement peut-être un peu mieux les critères justement qui sont des critères importants de diversité, d'inclusion dans leurs équipes qui permettent de booster aussi la performance. Et du côté actionnaire, du côté investisseur, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'un des drivers, un des vecteurs pour attirer aujourd'hui plus d'investisseuses, c'est aussi cette dimension utilité, impact des projets qui sont financés. Donc sur ces sujets-là, c'est des sujets qui peuvent aussi redonner un peu une longueur d'avance aux femmes parce que justement quelque part on peut plus ne pas les prendre en compte et donc ces dimensions d'impact, d'inclusion, de diversité sont vraiment de nature, je pense, à faire évoluer les choses dans le bon sens pour plus d'égalité.
Et c'est d'autant plus important que toute la dimension de reporting extra-financier qui va devenir de plus en plus importante pour les entreprises, aujourd'hui les très grandes entreprises, mais de plus en plus les ETI, les PME et les startups, va être nécessaire. Donc ce que dit Florence sur cette dimension d'impact au sens large, il faut la préparer, quoi. Il faut l'anticiper.
Je vous propose d'aborder à présent la seconde partie de notre table ronde pour avoir votre retour hein, sur l'écosystème startup et puis les nouvelles tendances. Vous êtes plutôt bien placé pour nous donner un petit aperçu de ces tendances-là, étant donné le nombre important de participations que vous accompagnez. Du coup, selon vous, dans quel état on est aujourd'hui dans l'écosystème startup au niveau des levées de fonds? Des montants qui sont levés, des valorisations qui sont arrêtées, comment elles sont arrêtées, quels critères sont déterminants pour les investisseurs, quelle doit être la maturité d'un projet pour que sa levée de fonds soit pertinente. Est-ce que vous avez des retours et des conseils à nous donner par rapport à ces problématiques ?
Ouais, alors, la deuxième partie de votre question, je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre parce que je n'ai pas forcément tous les éléments et c'est vrai que nous, on se focalise beaucoup sur la France. En revanche, sur la première partie de votre question, je pense qu'il y a un enjeu très fort en ce moment qui est de savoir déterminer son besoin de financement sur le long terme et de ne pas penser les levées de fonds comme quelque chose de one shot. Et donc, ça amène à une réflexion importante sur la taille en fait des levées, sur le sizing de la levée, très en lien bien évidemment avec la valorisation des boîtes. Et on voit aujourd'hui en fait la difficulté pour les entreprises qui font du pré-seed ou du seed, c'est de passer en série A. Il y a une dernière étude là qui vient de sortir. Bon, qui dit qu'il n'y a que 2% des startups qui ont fait de levées en seed qui font des séries A. Alors, je ne sais pas si ce chiffre il est réel de 2%, mais en tout cas, il montre qu'il y a une réelle marche à passer entre le premier financement et le financement de série A. Et que donc, cette question de la valorisation, elle est importante. Et que donc, cette question de la taille des levées, elle est fondamentale. Et donc, en fait, c'est avoir des bonnes réflexions sur combien on veut lever pour atteindre quel objectif, à quelle échéance, et à quel moment j'aurais besoin de trouver des nouveaux financements. Et ça, c'est quelque chose qu'on, je pense, qui a pas mal évolué, qui évolue beaucoup en ce moment, parce que les levées sont plus compliquées. Et donc, nous, l'accompagnement qu'on fait aussi, c'est ça, c'est de bien challenger la taille de la levée. Parce qu'en fait, on peut lever 500 000 euros, on peut lever 1,5 million, sur le même business, au même moment, et on peut même se dire qu'on aura les mêmes objectifs avec ces deux tailles de levée, parce qu'on dépensera peut-être pas l'argent de la même façon. Et donc c'est passer du temps là-dessus et pas se focaliser à l'inverse sur les questions de valorisation, mais bien se focaliser sur la taille des tours et ce que l'on veut en faire.
C'est clair qu'aujourd'hui, on est dans un schéma où les levées des fonds, c'est devenu plus compliqué en 2023. D'ailleurs, le volume des fonds levés a significativement diminué en 2023 par rapport à 2021 et 2022. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lever de fonds. Il y a toujours des levées qui se font, il y a toujours des opérations qui se font. Mais ça veut peut-être dire qu'on revient à des métriques et à des rationnels un petit peu plus, raisonnables. Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas bon que pour les investisseurs. Mais c'est aussi bon pour les entrepreneurs parce que ça veut dire que ça oblige tout le monde à se recentrer sur le nerf de la guerre qui est j'ai du cash, mais j'ai du cash que je dois utiliser au meilleur escient possible et pour effectivement, comme le disait Cécile, pour atteindre un certain nombre de milestones, de marches qui, si je les atteins pas, de toute façon, je pourrais pas passer à la prochaine étape parce que je pourrais pas faire la prochaine levée de fonds. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment important à la fois en phase amont d'étude des dossiers, due diligence, mais c'est aussi vraiment important ensuite parce que, quelque part, notre rôle à nous aussi, c'est justement d'avoir cette expérience d'un certain nombre d'investissements qui pour certains ont fonctionné puis pour d'autres n'ont pas fonctionné et quand on est entrepreneur généralement c'est alors on peut être multi-entrepreneur mais enfin souvent c'est la première expérience entrepreneuriale, c'est la première société et donc on peut faire des erreurs et s'appuyer sur des investisseurs qui ont vu un certain nombre d'entreprises et donc un certain nombre de problèmes c'est aussi important et c'est vraiment notre rôle et aujourd'hui le cash c'est le nerf de la guerre. Et la meilleure utilisation du cash, c'est vraiment un point, un sujet vraiment important. Donc, pas survaloriser, être à la bonne valorisation, et ça, c'est lié effectivement au bon montant de levée de fonds. Et comment je vais vraiment optimiser ce cash pour faire quoi, pour atteindre quelle prochaine étape. C'est vraiment des sujets qui sont revenus un peu au centre des échanges, alors qu'avant, il y a eu une période un peu trop euphorique sur on levait des fonds un peu facilement, sur des valorisations complètement ubuesques. Et du coup, ça incite pas l'entrepreneur à se rendre compte que l'argent, c'est quelque chose qu'il faut... faut pas dilapider, quoi. C'est important.
Pour terminer notre table ronde, je vous propose d'aborder un dernier point, les clés pour réussir. Donc, c'est vrai que nos interlocuteurs sont intéressés par vos retours sur ces sujets puisqu'ils doivent vous convaincre quand ils viennent pitcher vos projets. Et puis, ça permet aussi à nos auditeurs qui sont investisseurs de pouvoir confronter les points de vue et les méthodes. Quels sont donc les critères que vous regardez avant d'investir dans une start-up ? Quel est le rôle et l'importance pour vous de l'équipe fondatrice dans la réussite d'une start-up ? Et est-ce un choix qui est déterminant dans le fait d'investir ou non dans l'entreprise ?
C'est souvent une question... Évidemment, le problème, c'est toujours un problème de cash, parce que si l'entreprise, elle se plante, c'est toujours parce qu'il n'y a plus de cash. Mais à l'origine de ça, il y a effectivement pas mal de cas de figure assez diversifiés. Mais enfin, quand même, quand ça ne fonctionne pas, c'est un problème humain. Ça peut être un problème humain entre fondateurs. J'ai vu plusieurs fois, effectivement, des sociétés qui sont allées au tapis parce qu'en fait, il y a eu à un moment donné... Un désalignement assez fondamental entre les fondateurs, et ça peut pas fonctionner. C'est aussi un manque de... Le deuxième sujet, qui est quand même pour moi clé, c'est justement un manque d'anticipation et de réactivité. Et c'est là où notre rôle, il est vraiment important. C'est que quand on est entrepreneur, qu'on a la tête dans le guidon, on est naturellement optimiste. Et donc, on pense naturellement que de toute façon, ça ira mieux ou ça ne peut pas aller bien. Et donc, cette prise de recul et cette clairvoyance, elle est parfois un peu difficile à avoir, et c'est à nous, et parfois c'est compliqué, parce que ça veut dire que on oblige à se poser, à faire des prévisions qu'on n'a pas toujours envie de faire, à donner des explications sur les chiffres, etc. Mais on le fait pas on le fait vraiment parce qu'on est conscient que cette capacité à anticiper, à prévoir l'avenir et les prochaines étapes, elle est absolument fondamentale, et que le temps, il passe très vite, et que parfois, ce manque d'anticipation nous amène dans le mur. Donc pour moi, c'est fondateur, problème entre les fondateurs et manque de capacité à anticiper suffisamment en amont les prochaines étapes ou les difficultés qu'on pourrait avoir.
Non, mais moi, exactement la même chose. Hein. C'est l'anticipation, la capacité à lire les signaux faibles. L'erreur, ça peut être aussi d'être dans un manque de capacité d'écoute de la part des gens qui peuvent en effet vous apporter des conseils dans ces moments-là, parce qu'on n'a pas envie d'entendre des choses un peu désagréables, entre guillemets. Quand on a trop d'affect, il faut avoir une capacité à rester un peu froid à certains moments par rapport au sujet, et à entendre en effet les choses que l'on peut anticiper pour ne pas aller vers telle ou telle voie qui pourrait rendre complexes les entreprises. Et quand Florence parle de cette dimension humaine, quand il y a des problèmes humains entre les fondateurs, ils essayent toujours de les cacher. Ils vont pas arriver devant leur comité stratégique en disant « alors je vais vous expliquer, on n'arrête pas de se mettre sur la… » Ben non, ils le cachent. Donc en fait, et ça c'est peut-être aussi un côté féminin qu'on apporte dans les comités stratégiques, c'est essayer de se rendre compte, de lire les signaux faibles sur les équipes. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'on est dans la transparence, ou est-ce qu'on est au contraire dans la retenue d'informations ? Est-ce que les gens se contredisent, ou est-ce qu'ils sont ensemble ? Enfin, voilà, toute cette dimension humaine qu'on peut arriver à lire. Voilà. Et donc, essayer d'aller, du coup, en parler très en amont avec les fondateurs, même si ce sont des sujets qui sont hyper difficiles à aborder, mais il faut les aborder. Donc, le courage aussi des investisseurs et des gens qui accompagnent les startups, c'est aussi de leur dire ça. C'est tout en ayant cette fameuse bienveillance que l'on souhaite avoir, c'est d'être quand même capable de dire les choses, de les amener pour le bien de l'entreprise, en fait. Voilà, pour le bien de l'entreprise. Parce qu'après tout, ce qui compte, c'est l'entreprise.
Et les fondateurs, même quand ils sont pas, quand il n'y a pas des difficultés entre eux, ou que c'est un fondateur seul, on sait que c'est une aventure qui est hyper dure. Enfin, c'est dur, ça demande une résilience extraordinaire, etc. Et donc, c'est aussi à nous de voir quand il y a des moments de baisse de régime, voire de difficultés personnelles, etc., d'être là et d'en discuter. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cécile, peut-être que notre posture féminine aide un petit peu plus sur ces sujets-là. On peut aller dire, bon, ça n'a pas l'air d'aller, allez, qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que quand quand on est peut-être quand on est un homme, on dit pas quand ça va pas, mais nous on peut le dire. Donc donc finalement, bah, des fois rien que de parler d'un sujet, bah, ça permet de dédramatiser et puis de rebondir et de repartir, quoi.
Est-ce que vous avez déjà été confronté à des entrepreneurs qui refusent ou du moins qui freinent en fait les échanges avec vous ou avec leurs autres investisseurs ?
Bah, je crois que quand on n'arrive pas à voir ça, c'est qu'on s'est un petit peu trompé en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette phase en amont où on passe du temps avec les entrepreneurs, les équipes, pour comprendre leur business, pour comprendre comment ils fonctionnent, pour tester leur capacité d'exécution. C'est là où on doit dire est-ce qu'on va former une belle équipe avec eux, est-ce qu'on va pouvoir se parler, quoi. Voilà. Alors après, il peut y avoir plus ou moins de degrés de besoin. Hein. Il y a des entreprises qui réussissent très bien. Et d'ailleurs, on sent. Moi, dans certains de mes investissements, il y a eu des moments d'accompagnement. Et puis il y a des moments où je me suis dit, en fait, la boîte, elle est arrivée à un niveau de maturité où ils n'ont plus besoin de moi, ils vont avoir besoin d'autres types de personnes. Il faut être capable aussi de se retirer, entre guillemets, quand on n'apporte plus. Le risque, il peut être aussi inverse, hein, c'est d'avoir des investisseurs. Alors ça, on le retrouve peut-être un peu plus chez les business angels que chez les fonds d'investissement. Mais voilà, qui veulent un peu trop aussi peut-être s'immiscer ou donner leur avis sur des choses sur lesquelles ils n'apportent pas forcément grand-chose. Donc, il faut faire attention, c'est-à-dire que apporter des conseils, c'est vraiment pour le bénéfice de l'entreprise et pas pour son propre bénéfice. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut aussi peut-être savoir se retirer quand on n'apporte plus et que l'entreprise est passée à une autre taille.
Cherchez-vous à démocratiser l'investissement de manière plus générale? Et si oui, comment et pourquoi?
Nous, ce qu'on n'a pas dit aussi, parce qu'on en est fiers chez WinEquity, c'est que quand on a lancé le fonds, on l'a lancé sur cette dimension de la mixité, mais en fait, la mixité, elle est allée un peu plus loin chez nous parce qu'on a fait rentrer dans nos investisseurs des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui, généralement, sont des populations qui n'ont pas les moyens d'investir dans des fonds. Un, parce que les fonds ne sont pas ouverts à ces gens-là et que les tickets d'entrée dans les fonds sont trop importants. Et nous, on a aménagé un parrainage, en fait, par des gens du fonds qui pouvaient faire rentrer des jeunes, moyennant un ticket très, très faible. À la fois, nous, pour nous apporter un certain regard sur nos participations et sur notre deal flow, et puis de l'autre côté pour pouvoir leur donner goût en fait à l'investissement et commencer entre guillemets à les former ou à les informer sur l'investissement. Donc nous, la relation qu'on a avec nos investisseurs, c'est une relation aujourd'hui de proximité, parce que tous les investisseurs que nous avons fait rentrer, on les connaît, on les a rencontrés, on a échangé avec eux. Et on voulait avoir autour de nous des gens qui avaient envie d'investir sur cette thèse. Donc c'était important pour nous de les challenger sur leur envie de nous accompagner. Et on fait appel à certains d'entre eux quand on a des sujets, soit qui sont des sujets sectoriels, soit fonctionnels de leurs compétences. Et puis on essaye d'avoir régulièrement généralement deux fois par an, des rencontres avec nos investisseurs physiques pour leur présenter l'avancement des lignes, pour leur présenter les startups. Parce qu'en fait, ce qu'aiment les investisseurs, même s'ils investissent dans un fonds et qu'il y a en effet le fonds qui investit, c'est cette proximité aussi avec les startups, c'est toucher du doigt, c'est pouvoir apporter des contacts, c'est comprendre les projets, c'est comprendre où on est l'entreprise, et puis se rencontrer aussi entre investisseurs, c'est intéressant d'échanger.
Oui, bah, nous aussi, c'est un projet entrepreneurial. Hein, donc, finalement, on applique ce à quoi on croit de tous les côtés. Voilà, à la fois dans nos investissements, mais aussi, la mixité, la transparence, l'inclusion, les échanges, la collaboration. Enfin, tout ça, c'est vrai pour tout le monde, en fait, et c'est vrai avec nos actionnaires, nos investisseurs, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec les entreprises que l'on accompagne.
Cécile, Florence, on arrive donc à la fin de nos trois thématiques. On aurait pu encore en discuter longuement, mais le temps est écoulé. Merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour ces échanges. Comment les startups peuvent-elles vous contacter si elles ont envie de vous soumettre un projet ou comment toute personne peut vous contacter pour échanger avec vous sur WinEquity, sur Femme Business Angel et sur votre rôle d'investisseur.
Bah, par les voies classiques, on a notre site internet ou sur LinkedIn et je dirais voilà.
Voilà, le site internet, il y a un bouton pour pouvoir nous envoyer les dossiers. Et autrement, oui, Florence et moi, on est très très connectés LinkedIn et on peut nous connecter directement.
Félicitations pour tous vos projets et les valeurs que vous défendez. Est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin pour nos auditeurs ?
Le petit mot pour la fin, c'est un peu en lien à ce que vous avez dit, mais d'abord merci pour vos encouragements et vos félicitations, parce que c'est vrai quand on a lancé WinEquity, c'était pas évident que cette thèse. Enfin, nous, on en était persuadés, hein, mais voilà, il a fallu faire la démonstration que cette thèse pouvait être tenue. On est très fiers d'avoir ouvert la voie. On est très contente qu'il y ait plein d'autres initiatives qui aujourd'hui soutiennent à la fois soit la mixité, soit l'entrepreneuriat féminin, parce que ça montre que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, et on est très ouverte aussi à rencontrer, à discuter avec tous ceux et toutes celles investisseurs qui auraient envie de nous aider à investir dans des startups mixtes.
Oui, juste pour terminer, effectivement, merci Mégane pour cet échange. Je dirais que c'est un peu comme une startup, dont on a plein d'ambitions. Donc pour nous, WinEquity, c'est une première étape. Et puis on a encore plein de projets parce qu'on est convaincu que cette thèse de la mixité et cette envie de faire progresser justement des entreprises plus mixtes, plus inclusives. On est là pour les soutenir, donc à la fois côté actionnariat et côté entrepreneuriat. Donc on a plein d'idées et plein d'ambitions.
Encore un grand merci. Je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec vous deux. C'était très enrichissant. Je vous dis à bientôt et tenez-nous au courant donc de vos prochains projets. Au revoir.
Merci Mégane.
Merci beaucoup et longue vie à Cherebel.